Salut à tous et bienvenue dans le Pokémon Radio Show pour cette troisième émission pour Pokébip. Au sommaire de l'émission, il va y avoir de la stratégie du tournoi, mais je vais laisser nos chroniqueurs mieux nous présenter leur chronique. Et on commence par Walker.
Bonjour à tous, alors comme d'habitude, je vais vous parler de l'actualité du site et de l'actu des jeux vidéo.
Très bien, Molly Gru, qu'est-ce que tu vas nous parler ?
Aujourd'hui, je vais encore une fois vous parler de Pokéscience et cette fois-ci, nous allons aborder les processus de reproduction chez les Pokémon.
D'accord. Alors ensuite, Bibri, qui va nous parler de TCG.
Exact, je vais parler de TCG et la prochaine extension qui va sortir en France, donc avec le retour des Pokémon X.
D'accord. Un nouveau venu dans l'équipe, dans le Pokémon Radio Show, c'est une première pour lui, c'est Mac Megan. Tu vas nous parler de stratégie, si je dis pas de bêtises, et un Pokémon en particulier.
Ouais, tout à fait. Je vais parler du tournoi bientôt qui va avoir lieu en France, VGC, et de Celebi.
Très bien. Et pour finir, Ptirt.
Coucou. Moi, je vais parler du film 14, des deux films 14 et du film 15.
D'accord, et sans oublier Natachouille aussi qui est à mes côtés, et c'est à toi Natachouille.
Je suis Natachouille, la community manager de la fanpage Pokémon Radio Show, et vous pouvez me contacter à l'adresse mail pokemonradioshow@gmail.net.
Point net ?
Oui, point net.
C'est pas point com gmail ?
Non, je crois que c'est point net.
Oui, je sais pas.
Ils vont essayer les deux.
Essayer les deux et vous retrouverez Natachou. Si vous avez des questions, pensez à rejoindre la page Facebook. Il y a eu le challenge 30 jours Pokémon. Voilà. Alors, quel était le dernier Pokémon de ce challenge ?
Là, j'ai avoué qui est mon champion d'arène favori.
Ah, pour finir. D'accord.
Alors, on va commencer par Walker et ses news.
Oui, donc je vais vous parler de l'actualité du moment. Donc sur Pokébip, un petit truc que je voulais parler, c'est la sortie de l'arrivée de la vitrine des fan art sur l'espace membre. Donc en gros, les modérateurs de l'espace membre vous ont rassemblé les meilleures créations artistiques. Donc vous pourrez les découvrir dans l'espace membre.
Ah, je peux mettre mes dessins là.
Ouais, tu peux tenter de les mettre et ils seront mis dans la vitrine.
C'est une toute nouvelle section qui n'était pas avant sur le site.
Tout à fait, une toute nouvelle section.
Et sans oublier qu'il y a eu les facts aussi qui sont arrivés, mais on en a parlé dans le Pokémon Radio Show précédent.
En effet. Sachant que la dernière fois, on était à plus de 2000, et que là, on a dépassé les 4000.
On continue. Walker, as-tu d'autres choses à nous présenter, autre que l'actualité de suite ? Parce que là, tu nous as parlé de la nouvelle section, mais tu as peut-être d'autres petites choses à nous raconter ?
Oui, alors en termes de jeux vidéo, j'ai de l'actu un peu plus croustillante. Déjà, on peut parler de l'arrivée prochaine de Poképark 2 sur Wii, donc il sort le 23 mars prochain. Donc en fait, c'est un jeu qui est globalement identique au premier opus, mais il a plusieurs nouveautés. Par exemple, on peut constituer une équipe avec les trois starters de la 5G, à savoir Grookey, Vipélière et Moustillon. Il y a des nouvelles attractions, donc 4 nouvelles attractions. En termes de mini-jeux, il y a les 5 de l'ancienne version, avec 2 nouveautés. La Sweet Factory, la Dance Inferno, la Power Bash et la Wonder Flight. On n'a pas encore les noms français des jeux, mais c'est des petits jeux bien sympas.
Et ça, c'est dans Poképark Wii 2.
Voilà, donc il y a un petit jeu de danse, un petit jeu de force apparemment, où on va utiliser le pouvoir des Pokémon. Un petit jeu de bonbons, ou de fabrication de cupcakes, je sais pas trop ce que c'est.
Cupcake.
Voilà, et puis un jeu de course d'obstacles aériens.
D'accord, bon bah ça promet de longues heures, je sais pas, est-ce que vous l'attendez le jeu ? Moi personnellement pas trop, mais peut-être que les membres de l'équipe attendent ce jeu, je sais pas. Natachouille, toi qui avais fait le premier, Poképark 2...
Bah, c'est mignon tout plein, ça plaira justement à vos petites sœurs ou petits frères. Et en plus, on peut jouer avec lui, parce que dans le premier, on pouvait que jouer en solo.
Ouais.
Là, apparemment, c'est en multijoueur.
Et jusqu'à combien plus party game, un peu à la Mario Party, Wii Play ?
Je crois à 4 joueurs, je peux.
Ouais. Walker, est-ce que tu sais le nombre de joueurs qui aurait. À combien on peut jouer maximum à ce jeu ?
Ouais, c'est 4 joueurs.
4 joueurs, d'accord, donc ça devient un party game, parce que c'était ça qui faisait quand même un peu...
une base, enfin un petit party game, quoi.
Ouais, et voilà. Après, ça reste Poképark, oui, donc faut pas s'attendre à un jeu extraordinairement intéressant pour un adulte, en tout cas.
Non, c'est sûr, mais ça reste quand même un bon titre avec des beaux graphismes et un scénario un peu plus fouillé que le premier, hein, donc il peut être relativement intéressant pour ceux qui ont aimé le premier opus.
Et il y a quoi d'autre annonce dans l'univers Pokémon, on va savoir.
Alors, en dehors de Poképark 2, parler de la sortie de Nobunaga qui arrive le 17 mars 2012. Donc on avait déjà parlé de ce titre, hein, donc ça reprend la ligne des Nobunaga mais en version Pokémon. Donc le 17 mars, il sortira au Japon et on pourra enfin découvrir la consistance de ce titre un peu plus en détail. D'ailleurs, sur Pokébip, vous pouvez découvrir le dernier trailer du jeu avec un peu plus de détails sur le gameplay.
D'accord. Et pareil, est-ce que quelqu'un l'attend ce jeu ? Est-ce que vous avez une attente particulière sur ce titre ou pas du tout ?
Personnellement, je l'attends avec impatience puisque j'aime beaucoup les jeux tactical comme ça. Et j'avoue que Pokémon en tactical, c'est assez inattendu. J'ai vraiment envie de voir ce que ça a donné.
D'accord. C'est vrai qu'en plus, c'est deux univers assez différents entre le sanglant et le kawaii.
Mais complètement.
On est dans une très très grande contradiction, j'ai envie de dire.
Moi, je suis curieuse de savoir ce que ça va donner.
Pareil, c'est vrai que ça peut être un mélange surprenant, hein, crossover. Ouais. Des fois, on a de belles choses.
Rien à voir avec Street Fighter Cross Tekken,
un bon Kingdom Hearts, par exemple.
Voilà, Kingdom Hearts. Ouais. On est dans un crossover qui est intéressant avec beaucoup de contenu. Donc voilà, ça reste à voir. Et je pense que quand même, ce jeu-là touchera un public peut-être plus âgé que Poképark Wii 2, en tout cas.
En effet.
Non, ça c'est clair.
Sinon, en termes d'actualité, on peut parler des distributions.
Des distributions, ouais.
Voilà, actuellement, on peut le dire maintenant, actuellement, il y a Reshiram et Zekrom qu'on peut récupérer sur nos versions noires et blanches, donc blanche pour Reshiram, noire pour Zekrom. Donc c'est à partir d'aujourd'hui, hein, on enregistre le 9 mars, et c'est jusqu'au 25 mars de cette année qu'on peut récupérer les deux Pokémon. Ils ont des attaques assez particulières que vous pouvez découvrir sur Pokébip.
D'accord, donc sachant que le podcast sera mis un tout petit peu en ligne après, quand vous allez l'écouter, vous allez encore avoir le temps de pouvoir télécharger votre Pokémon, mais de toute façon, ça a été newsé sur Pokébip.
Oui, tout à fait.
Voilà, Pokébip. Le site numéro 1 sur Pokémon, donc obligé de newser un petit peu sur les distributions.
Paraît-il.
Pas aussi Lucario qui est disponible sur le Dream World.
Alors oui, en effet, sur le Dream World, vous pouvez récupérer le Pokémon Lucario. Récupérer, c'est comme les anciens, comme les autres Pokémon sur Dream World, à savoir, il faut se rendre dans la section pour profiter des offres, hein, donc c'est en bas à droite de l'écran. Et vous tapez Luca Eurogamer FR, donc vous avez le mot exact sur Pokébip, et il est disponible du 1er mars jusqu'à fin mai 2012, donc vous avez quelques mois pour le récupérer.
D'accord, bon, on a quand même plus de temps que télé pour que en comparaison à Reshiram et Zekrom.
Voilà, tout à fait, il y a beaucoup plus de temps. En termes d'actu, il y a quelque chose d'assez énorme. C'est l'annonce de Pokémon Black and White 2.
Ah, c'est une première, hein. Une suite dans Pokémon, c'est une première.
Une suite, pas une première, mais une suite numérotée, oui, c'est une première.
Ah oui, c'est une suite numérotée. C'est-à-dire que Nintendo, en ce moment, assume de plus en plus de numéroter ses jeux. Luigi Mansion 2, Mario Kart 7, on arrive à voir Nintendo assume de plus en plus les suites.
Soit c'est un moyen d'assumer, je sais pas, le fait que ce soit des consécutifs, ou soit ils ont plus d'idées, ils ont plus de copyright pour les versions.
En tout cas, on est un peu déçus qu'il n'y ait pas de version grise. Moi, personnellement, j'aurais aimé...
ça peut toujours venir.
C'est vrai que ça peut venir, sachant que rien n'est impossible. Nintendo nous a toujours surpris. On nous a encore surpris une fois de plus avec les versions, la version 2. Donc ouais, rien n'est impossible. Est-ce que, Walker, tu peux présenter un petit peu le contenu un peu de cette version qui sera quand même un peu plus différente, centralisée sur Kyurem?
Oui, alors apparemment, bon, on n'en sait pas trop sur cette version pour le moment. Tout ce qu'on peut savoir, enfin tout ce qu'on peut dire, c'est que chacune de ces versions aura un Kyurem alternatif. Donc certains disent que c'est une autre forme de Pokémon. Pour l'instant, on va attendre des informations officielles, mais on aura un Black Kyurem et un White Kyurem. Donc le Black Kyurem aura les caractéristiques du Pokémon Chrome, voilà, et le White de Reshiram.
C'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que Kyurem Dragon Glace, Zekrom Electric Dragon et Reshiram Feu Dragon, comment ils vont réussir à mélanger les types? Moi, c'est ça qui me surprend dans...
Ça se peut, il y aura trois types.
Eh, ça serait une première dans Pokémon, un Pokémon qui est trois types.
Mais si c'est le cas, ça veut dire que ce titre, ça va être plus qu'une nouveauté. Ça veut dire que ce sera peut-être autre chose, dans le sens où s'ils incluent les trois types, chose qu'on n'a pas vu
jusqu'à présent, ouais.
On pourra pas faire, par exemple, d'échange dans l'autre sens, ce genre de choses.
Ouais, que ça risque de poser problème s'ils en viennent à mettre trois types. D'un côté, ce serait logique que ce Pokémon ait trois types. Enfin, je l'imagine pas autrement, quoi. Après, je sais pas pour vous, mais voilà, moi, ça me surprendrait vraiment de la part de Pokémon Company et de Game Freak, notamment, de nous proposer un Pokémon inédit jamais vu auparavant, quoi.
C'est possible, c'est possible. Mais pour l'instant, wait and see.
Wait and see. Pareil pour le scénario, wait and see, ou il y a déjà quelque chose d'amorcé?
Bah, je pense que on aura quelque chose de très proche des versions noires et blanches, étant donné que c'est version noire et blanche 2, ça peut être quelque chose
que
de...
C'est la suite.
Ouais, ça peut être la suite directe, hein.
Voir ce
ou peut-être
passe,
même un Colosseum qui devient XD, un truc comme ça. Peut-être.
C'est possible, c'est possible.
C'est vrai que là, après, les... J'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, oui, chacun peut y aller de son avis, et puis vous n'hésitez pas à réagir sur les commentaires pour donner votre avis sur cette version 2, hein, la suite directe de Noir et Blanc.
Ok, bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais laisser la parole à Molly.
À Molly Gru, qui nous parle de Pokéscience, et peut-être elle va subir un bouleversement avec cette version grise, et peut-être le...
S'il vous plaît, j'ai déjà assez de travail comme ça, merci.
Allez, Molly Gru, c'est à toi.
Donc aujourd'hui, enfin ce soir, je vais vous parler de reproduction chez les Pokémon. Nous avons remarqué, depuis le temps que nous pouvons les mettre ensemble à la pension, que les Pokémon peuvent se reproduire à peu près avec, grosso modo, n'importe quel autre Pokémon. Grosso modo, hein, avec... en limitant ses compatibilités à l'intérieur de groupes d'œufs. Et on continue pourtant à appeler les Pokémon espèces chenipans, espèces dracofeu, etc. C'est une façon un peu fausse de voir les choses. Si les Pokémon peuvent ainsi se reproduire les uns avec les autres malgré leurs différences d'apparence, c'est qu'il ne s'agit pas de différentes espèces, mais de différentes sous-espèces ou races appartenant toutes à la même espèce Pokémon. Donc, quand on prend au niveau de la classification, Pokémon, c'est l'espèce, et Chenipan, Dracaufeu, etc., ce sont des sous-espèces, voire même des races.
D'accord, c'est vrai que c'est assez complexe, parce que du coup, en fait, il y aurait un œuf, enfin, on va dire qu'il y aurait une boule, et dans cette boule, en fait, tout le monde pourrait se mélanger entre eux, quoi. C'est assez...
Oui, mais les Pokémon ne peuvent se mélanger entre eux que dans des groupes d'œufs. Ces groupes d'œufs ne peuvent pas indiquer une compatibilité géométrique, c'est-à-dire si l'un des deux individus est trop grand, il ne pourra pas s'accoupler avec l'autre qui est trop petit. Donc ce n'est pas une incompatibilité géométrique, puisque nous voyons que Wailord peut s'accoupler avec Topicker, ce qui est assez surprenant. Donc, ce n'est pas une différence géométrique, c'est donc une différence comportementale. C'est-à-dire que les parades nuptiales des différents groupes d'œufs vont pouvoir être compatibles entre elles, mais qu'un individu ne pourra pas être compatible avec des individus d'un autre groupe d'œufs, puisqu'ils ne vont pas pouvoir communiquer leur attirance respective, et ils ne vont donc pas pouvoir s'accoupler, puisqu'ils ne vont pas pouvoir communiquer leur désir respectif.
Vache, c'est compliqué. C'est vrai que je sais pas, mais voilà, on essaye. Enfin, pour la plupart du temps, voilà, je pense que la plupart des auditeurs utilisent Métamorph. Est-ce que Métamorph arriverait justement à s'adapter à toutes ces différences de comportement?
À moins que ce ne soit simplement dans l'instinct des Pokémon de savoir que Métamorph est un peu, comment dire ça poliment, la bonne à tout faire et. Qu'il est possible, comme Métamorph peut changer facilement de géométrie, qu'il lui est possible de s'adapter à un peu n'importe quoi.
Il peut s'adapter, c'est vrai que c'est... j'avais jamais pensé à cette question, quoi, qu'en fait, ce serait... Effectivement, les Pokémon sont différents, mais finalement, s'ils peuvent s'accoupler ensemble, c'est qu'ils ont plus ou moins le même ADN.
Voilà, puisqu'il s'agit de la même espèce, puisqu'ils sont compatibles à la reproduction et que leur descendance est fertile. Donc Pokémon est une seule et même espèce, qui la différencie de tous les autres espèces du vivant, animaux, plantes, êtres humains, etc.
Oui, parce qu'un humain, par exemple, ne peut pas s'accoupler avec un animal.
Enfin, géométriquement, c'est possible, mais génétiquement, ça ne donnera pas grand-chose.
Ça ne donnera un homme chien.
Attention, on entre dans le domaine du hentai, là.
Yurk.
Ouais, enfin c'est assez fury tout ça, mais ouais effectivement c'est un peu, enfin j'allais dire un peu barré, non, parce que mine de rien c'est logique en soi.
Gardevoir, bloque pas.
Oui, mais Gardevoir ne fait pas partie du groupe d'œufs humanoïdes, elle fait partie du groupe d'œufs monstres.
Il y en a plein qui fantasment là-dessus, alors bon, on va les laisser.
Mais elle n'est pas compatible. Il y a autre chose que les dresseurs ont remarqué, c'est que si à l'état sauvage, une femelle Pokémon va donner naissance à des petits qui vont avoir soit son aspect à elle, soit l'aspect de son compagnon, à l'état domestique, la femelle va donner naissance à des petits qui seront strictement de son apparence. Alors nous avons fait quelques petites recherches là-dessus, et nous avons vu que, en captivité, la femelle va émettre des enzymes qui vont placer des groupements méthyl sur l'ADN du père, et donc dans les premiers stades du développement de l'embryon, Ce sont les stats qui vont diriger l'organisation globale de l'embryon. Ce sera uniquement l'ADN de la mère qui va s'exprimer, en donnant donc la forme, l'apparence de la mère à ses petits.
Parce que dans la reproduction, donc, l'enfant reprend toujours le code génétique de sa mère, finalement, enfin son aspect.
Il prend le code génétique des deux parents, mais dans les premiers stades du développement, ce qui va diriger son apparence, son aspect physique, il prend uniquement celui de sa mère. Mais il prend aussi celui de son père un peu plus tard, puisque nous avons vu que certaines attaques peuvent être transmises par le père, certaines caractéristiques physiques, que l'on appelle individual values en tactique, peuvent être transmises par le père, puisque la méthylation de l'ADN paternel ne va pas durer toute la vie, seulement les premiers stades de développement embryonnaire.
La vache. C'est vraiment la Pokémon, c'est vraiment une science. Hein,
cette histoire de méthylation de l'ADN, nous l'observons également chez certaines espèces de plantes. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez chercher sur internet. Ça se trouve, ça existe. On le trouve sur certaines espèces de plantes.
D'accord. Et sur ce thème-là, est-ce qu'on peut retrouver donc le thème de la reproduction sur le forum de Pokébip? Est-ce que pour inviter nos auditeurs à venir en discuter également sur la section du forum, est-ce qu'il y a une partie où les gens peuvent en débattre?
En fait, on en a débattu un petit peu partout. Donc, si on ne trouve aucun sujet ouvert qui soit strictement sur la reproduction, il y en a, si j'ai bonne mémoire, sur les groupes d'œufs, il y en a sur Métamorph, et on aborde souvent cet aspect. Mais c'est quelque chose que je vous invite plutôt à regarder par vous-même, puisque c'est pas la peine que je vous lise le forum. Intéressant si vous pouvez y aller vous-même et participer au débat. Je vous lis le forum là maintenant en ligne, ça va pas être très intéressant, j'imagine. Donc voilà, suite à cette petite explication sur certains mystères de la biologie des Pokémon, je vais passer la main. Il me semble que nous allons parler stratégie.
Stratégie de jeu de cartes avec Bribri. Très belle transition, Molly. Oui. En tout cas, on te remercie pour nous avoir un peu éclairé la lanterne. On dormira moins bête.
Ce soir.
Ce soir, sur les œufs, notamment.
Mais je crois, pour les espèces Pokémon, je crois qu'il explique dans la soluce de la version noir et blanc que je crois j'ai lu un... Ouais, je crois qu'ils expliquent un peu sur la reproduction. Là, j'ai vu qu'il a des espèces fées, humanoïdes...
Ce sont les groupes d'œufs.
C'est les groupes d'œufs. Voilà, c'est ce qu'elle expliquait, qu'en fait, c'est les groupes d'œufs qui détermineront la compatibilité. Oui. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de passer à Bribri?
Enfin, c'est pas une question, c'est un mystère. Le mystère d'un œuf. C'est un œuf qui sort d'un œuf. Enfin, c'est 6 œufs qui sortent d'un œuf.
En fait, nous avons remarqué que Nonneuf et Noix de Coco possèdent deux moyens de reproduction. Le premier, c'est la reproduction sexuée, qui va faire un œuf qui va donner naissance à des sextuplés, les Nonneufs. Ou alors, il y a la reproduction par parthénogenèse, c'est-à-dire que les têtes de Noix de Coco repoussent sans cesse, ils les utilisent dans certaines de ces attaques, et il leur arrive qu'elles tombent par terre, et lorsque 6 se rejoignent, ça forme un nouveau Nonneuf.
Je peux avoir aussi ton avis sur Kangourex? Le fait qu'il y ait un petit, quand il sort de l'œuf, qu'il ait déjà un petit dans sa poche.
Alors, l'observation de Kangourex est très difficile dans la nature car c'est un Pokémon très craintif. Pour le moment, certains ont avancé plusieurs hypothèses qui sont en train d'être explorées. Certaines de ces hypothèses est qu'il ne s'agit pas d'un Pokémon différent, mais d'une sorte de leurre qui servirait à détourner l'attention en combat. D'autres disent qu'il s'agit d'un jumeau et qu'il s'agit simplement du mâle, qu'il s'agit donc du frère jumeau de la grande Kangourex et qu'elle le transporte dans sa poche jusqu'à pouvoir l'échanger avec une autre femelle et pouvoir s'accoupler avec un mâle qui est un patrimoine génétique différent d'elle.
J'aurais juste quelque chose à ajouter sur Kangourex. Donc en fait, j'avais vu que Kangourex, le fait qu'il ait un petit dans sa poche, en dehors de la Pokéscience, c'était un bug des premières versions de Pokémon.
Tout à fait.
Oh, si,
moi je vais en parler. Hein.
C'est-à-dire...
Tu sais très bien.
Attends,
non, s'il vous plaît.
C'est-à-dire
pas
que,
scientifique,
En gros, Kangourex était l'évolution de sa tueur. Ça faisait Ossatueur, Ossolet, Kangourex. Et le petit sprite qui sert de clone, c'est le sprite du bébé Kangourex. C'est le même sprite qui est dans l'œuf, enfin qui est dans la poche de Kangourex.
En fait, dans les bases de données du jeu, il y a un Pokémon qui n'a jamais été utilisé qui s'appelle M. Et en réalité, pour qu'un Pokémon évolue dans les données de ses sprites, il y a un code. Donc ça veut dire par exemple que Pikachu il a le code 1 et que Raichu il aurait le code 2 pour que Pikachu passe du sprite de Pikachu à Raichu. Et alors, en fait, dans la base de données, il y a que M, le Pokémon buggé qui doit ressembler au petit Kangourex, aurait le chiffre qui vient juste avant Ocelay. Ce qui fait qu'en fait, quand on essaye d'élever un M, il évolue directement en Kangourex. Ce qui fait qu'en fait, on pense vraiment que M serait le Pokémon, le petit Kangourex, qui a été malheureusement enlevé du bon jeu. D'ailleurs, même si on regarde, leur nom est vraiment... Le nom de Ossature et de Kangourex est presque pareil, en fait. Je me souviens plus, je sais que Ossature s'appelle Garagara, Kangourex en japonais s'appelle Garuru. Et c'est presque pareil, en fait.
Garura, je viens de...
Raichu et Raiku, c'est aussi presque pareil.
Oui, mais bon, c'est l'étymologie.
Ça n'a rien à voir, c'est parce que Rai, Lai en japonais, c'est le tonnerre, c'est tout.
Donc un beau son Windows pour laisser place à Bri-Bri pour la stratégie. Si vous voulez réagir, comme d'hab, hein, vous avez...
Bon ben, je vais prendre Ptirt et je vais lui gueuler dessus en coulisses.
D'accord,
bah comme viens, je t'attends.
Tirez-vous les cheveux pendant que Bri-Bri va nous parler de cartes, voilà.
Oui, je vais juste corriger, je vais pas parler de stratégie, je vais juste parler des cartes.
Oui, enfin stratégie de carte, hein, du TCG, voilà,
ouais. Pour faire simple. Ouais, mais je veux parler stratégie, je vais plutôt introduire la prochaine série qui va sortir en France. Donc le nom de la série, ce sera Destiné Futur, donc noir et blanc, la quatrième série, avec le retour des Pokémon X. Dans cette série, il y aura 6 Pokémon X, les 3 dragons de noir et blanc, donc Kyurem, Reshiram, Zekrom, Mewtwo, Regigigas et Shaymin.
Question.
Oui.
X, ça veut dire quoi?
J'en ai strictement aucune idée. Honnêtement, je sais pas du tout, mais je pense que c'est plutôt un sigle pour dire que c'est un Pokémon rare.
C'est pas une plutôt carte extra
ou... Exceptionnel.
Ouais, je pense que c'est un truc dans le genre. La série Destinée Future avec les Pokémon X et le retour de la règle. Donc dès que notre Pokémon X est mis KO, on prend 2 cartes. Le retour de cette règle. Il faut dire aussi que les Pokémon X sont beaucoup plus puissants que les Pokémon normaux, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus rares également. Je pense qu'ils vont être beaucoup joués, surtout le Mewtwo.
Qu'est-ce qu'il a de particulier
Alors, c'est surtout pour sa première attaque qui inflige 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attaché à Mewtwo et au Pokémon défenseur. Et ça peut faire très mal.
Ah ouais,
sachant qu'il a besoin de minimum 2 énergies pour attaquer, donc il fait déjà minimum 40 dégâts. Attacher des énergies maintenant, c'est plus très compliqué. Pense notamment à Sheiminex par exemple, qui permet l'attaque. Sa première attaque permet d'attacher une énergie plante à un Pokémon de son choix. Donc ça fait 2 énergies en un tour déjà. On peut penser à l'énergie doublement incolore qui fournit 2 énergies. T'attaches une énergie, ça te fait déjà 2 énergies. Je sais plus comment il s'appelle en français, c'est... Ah oui, l'Ampérois, la série Victoire Noble, qui permet d'attacher une autre énergie au tour. Rien que comme ça, on pourrait attacher par exemple 4 énergies en un tour à Mewtwo, et ça pourrait faire très mal.
Alors du coup, ça ferait 4 x 2, 80.
Ouais, multi...
Enfin, 4 x 20 plutôt.
Plus encore 20 pour chaque énergie attachée au Pokémon défenseur. Donc après,
ouais,
le Pokémon défenseur, s'il veut attaquer, il faut qu'il fasse gaffe.
Ouais, et en moyenne, il faut. Enfin, là, sur le style de jeu actuel, il faut à peu près. En moyenne, combien d'énergie par Pokémon pour attaquer? Enfin, un Pokémon, il a besoin en moyenne de combien d'énergie pour attaquer?
Ça dépend. En ce moment, je dirais plutôt entre 2 et 3. Mais faut pas oublier que Mewtwo X aussi, il est base et il a quand même 170 PV.
Pour en venir à bout, c'est vrai qu'il va être colossal. Si lui il a déjà 2 énergies, que l'adversaire il en a 3, ça en fait 5 x 2, ça fait déjà 100 de dégâts quoi, c'est assez.
Ouais, voilà. Bon, ce qui est un peu bête, c'est qu'il a faiblesse à lui-même quoi. C'est-à-dire, s'il y a 2 Mewtwo X l'un en face de l'autre, ben c'est un peu au pif, au bol quoi.
Sera au pile ou face.
Enfin, c'est celui qui attache les énergies correctement quoi. Et ça, c'est assez dur parce que si ton Mewtwo X meurt, ben l'autre il prend 2 récompenses. Sachant que dès que t'as pris tes 6 récompenses, Mewtwo X se met KO et mis KO parce que ton adversaire prend 2 récompenses et que si ton adversaire a pris 6 récompenses, il a gagné le match.
Parce que t'as la victoire dans Pokémon, t'as la victoire par la récompense quand ton adversaire n'a plus de cartes à piocher.
Et quand ton adversaire a plus de Pokémon
sur son banc
et en attaque, ouais.
Voilà, c'est les 3 grandes façons de gagner. Donc effectivement, ouais, si tu pioches 2 récompenses quand tu éclates un Mewtwo, va falloir faire super gaffe.
Ouais, c'est ça le problème. C'est là le problème, c'est que le Mewtwo X, il vaut très cher.
C'est-à-dire en valeur monétaire ou en valeur de
En valeur de monétaire, jeu. Oui. Et en valeur de jeu, ce qui fait que la valeur monétaire, ça vaut très cher, quoi. C'est comme le Yann Mega qui est sorti dans la série Triumph, Aurora Gold et Soul Silver Triumph, qui valait à un moment 50$, entre 50$, voire même 50€.
Ça, c'est quand même moins que les cartes Magic qui, elles, vont au moins à 600€ certaines cartes.
Non, là, c'est sûr que Pokémon, c'est quand même beaucoup moins abusé les prix, mais ça reste quand même relativement cher pour des cartes.
Tout cas, c'est du carton, effectivement.
Puis c'est moins populaire que Magic.
même si ça a été longtemps les mêmes, la même boîte qui gérait les deux, hein. C'était Wizard, me semble-t-il, pour Magic et Pokémon.
Ouais. Et là, c'est Asmodée, non ?
Bah non, c'est...
Paperback, non ?
Si tu veux, Asmodée, c'est le distributeur en France. Et en Belgique aussi, je crois, c'est Asmodée. C'est pas partout le même distributeur. Mais ouais. c'est Pokémon Company International qui gère. En tout cas, pour la partie Amérique et Europe.
Et est-ce que tu sais si, comme la plupart des cartes, elles sont faites en Allemagne ? Je sais qu'il y a beaucoup de cartes faites en Allemagne.
Il me semble qu'elles sont faites en Belgique.
Allemagne et Belgique, ouais.
Si je me trompe pas, elles sont faites en Belgique.
Est-ce qu'elles valent moins cher en Belgique ? Ça, ce serait la question. Est-ce que les cartes Pokémon valent moins cher en Belgique ?
Il me semble qu'un gros pack, ça vaut 5€ et qu'un petit, allez, environ 1€ ou 2.
T'entends quoi par un petit pack ? Parce que.
Bah,
un booster
je sais pas
et
si...
un deck.
Ouais, à mon avis, c'est ça.
Là, c'est quand même relativement beaucoup moins cher, alors, à ce moment-là.
Ouais. Donc, Bribri va venir vivre en Belgique pour payer ses cartes Pokémon moins chères.
Je l'héberge pas, hein.
Je les importe.
Non, je ne l'héberge pas. Il reste dehors, c'est tout.
Non, moi, je les importe des États-Unis, c'est mieux.
Selon mon frère, c'est 5€ un booster. Et on est en Belgique aussi. Ouais, on est en Belgique aussi.
Ah. Bon, bah, c'est pas moins cher qu'en France ou en Suisse, finalement.
Ouais, moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'importe des États-Unis, ce qui... Ça me revient à peu près 100€ pour 36 boosters.
Ouais, et puis, de toute façon, pour les tournois, il n'y a pas de limite au niveau des langues des cartes.
L'anglais, c'est international, on peut faire partout. Par contre, en Europe, on n'a pas le droit de mettre des cartes japonaises.
Ouais, faut
ou
qu'on puisse lire, en fait, la description...
Dans une langue européenne.
Ça faut que l'arbitre ne soit pas perdu quand, puis sachant qu'ils voilà, ils doivent maîtriser l'anglais, au moins ça pose pas de problème. Bah, c'est pareil hein, pour la plupart des jeux de cartes, chez Yu-Gi-Oh! T'avais pas le droit aux cartes japonaises, par exemple.
Ouais,
en Europe et aux États-Unis, t'avais pas le droit aux cartes japonaises. Et puis,
ouais, avant t'avais droit, mais fallait que t'aies une référence avec toi.
C'est-à-dire une référence.
C'est-à-dire, fallait que t'aies la carte en français ou en anglais à côté, mais ce qui fait que ton adversaire, ben, il savait ce que t'avais dans ton deck, quoi.
Ouais, en fait, il aurait pu finalement regarder. Ouais,
bon, par exemple, je connaissais beaucoup de gens qui importaient des cartes du Japon, parce que c'est beaucoup moins cher encore et que t'as beaucoup plus de rares, ils se dégotaient une carte, une fois la carte, chaque carte, puis ben ils prenaient quoi.
Mais est-ce que par exemple t'as le droit, si t'as des cartes japonaises, de venir avec un classeur avec toutes tes cartes dedans, mais tu sais que t'as imprimé la description via internet?
Bah maintenant plus, de toute façon tu peux plus jouer les cartes japonaises, c'est complètement interdit. Donc tu pouvais, mais seulement si c'était les références officielles Pokémon sur le site officiel.
Okay. Est-ce que t'avais d'autres choses à rajouter sur les cartes finalement?
Je sais plus si j'ai précisé la date de sortie de la série, donc ce sera le 24 mars, juste après Poképark. Je vais laisser ma place à Mac Megan pour qu'il parle, lui, de stratégie.
Ah, de stratégie ? Du jeu vidéo. Donc Mac Megan, grande première dans le Pokémon Radio Show. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais sur Pokébip?
Oui, donc je m'appelle, comme vous savez, ici Mac Megan. Je suis sur Bip depuis... quelques mois maintenant, j'ai recommencé à jouer sur Pokémon il y a un an, plus ou moins. Et sur Pokébip, on travaille surtout en ce moment sur la Gazette. D'ailleurs, une question avait été posée sur le forum, une question qui revient assez souvent. Qu'est-ce qu'on le voit faire pour les fiches? Eh bien, les fiches stratégiques. On ne travaille pas encore dessus tout simplement parce que le métagame, donc les Pokémon qui sont joués changent beaucoup. Et faire des fiches maintenant, ça serait un travail qui risquerait d'être obsolète dans l'avenir. Donc on les réserve à plus tard. Donc ce qu'on fait surtout, c'est aider les membres sur le forum en leur notant leur team, en leur donnant des conseils. Et on essaie aussi de les intégrer vers le site mère de la stratégie qui s'appelle Smogon, où là il y a tous les tournois officiels en quelque sorte. Ils sont pas organisés par Nintendo, mais ils sont assez gros. Et c'est là où le niveau est le plus élevé.
D'accord. Puis Smogon aussi qui met à disposition un serveur, par exemple pour les battles et Pokémon Online. Si je...
C'est ça.
Smogon University, je crois, un truc du genre.
Voilà, c'est ça, Smogon University, et qui fournit un serveur. A noter aussi qu'il y a toujours un serveur français pour venir parler français, ce qui est toujours plus pratique. Hein.
C'est pas faux. au moins on n'est pas perdu. Stratégie Pokémon, stratégie jeu vidéo, tu vas nous parler d'un Pokémon en particulier.
En fait, je comptais le réserver pour la suite parce qu'il y a aussi un tournoi qui va bientôt être jouable, en vrai.
C'est
assez important, les tournois VGC, donc VGC pour Video Game Championship. En fait, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est vraiment un tournoi officiel dans le sens où il est organisé par Nintendo, avec des récompenses très intéressantes à la clé. Et il va y avoir la manche en France qui aura lieu le samedi 17 mars à Paris, à l'espace Champeret, dans le Hall C.
C'est ça, c'est Métro Ligne 3 pour ceux qui vont faire le déplacement. Voilà, c'est Métro Ligne 3. Espace Champeret, c'est là où il y avait le Paris Manga à une époque. Donc Nintendo, là, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, il l'avait fait à la Villette, donc là ils vont à l'opposé quoi, de Paris, proposer un gros tournoi finalement. C'est The Tournoi et c'est celui qui...
Ouais, c'est quand même les plus gros tournois, en tout cas c'est organisé par Nintendo, c'est vraiment les tournois à ne pas manquer.
Et toi, tu vas y participer ou pas?
Mais non, déjà, le voyage, il faut le faire jusqu'à Paris et je ne joue pas en fait au format Nintendo.
Ah, tu joues que sur, le Battle Online, quoi.
Voilà, c'est ça.
Bon, c'est vrai que c'est quand même plus simple, ça. Le Battle Online a le mérite de pas avoir de tricheur, finalement.
Aussi, et c'est plus pratique parce qu'on se concentre que sur la stratégie. À ce moment-là, il n'y a pas d'effort à faire ailleurs.
Est-ce que tu as quelques petits conseils à donner aux gens
rapidement? Déjà, peut-être leur donner les règles, en tout cas les règles principales.
Ouais, très important.
Alors, ça se déroule, les matchs se font dans le format 2v2. Donc, les joueurs ramènent chacun 6 Pokémon. Ça va jouer en 2v2 et donc, ils vont pouvoir voir la team de l'adversaire. Ils vont en choisir 4 parmi les leurs. Et l'adversaire aussi. Donc ça se déroule en 2v2. 4 Pokémon contre 4 à partir des 6 de chaque équipe.
Ils reprennent à chaque fois le même format. Hein. Depuis quelques temps, c'est que du
2v2. Ouais, voilà. Ça n'a pas changé. La limite toujours de niveau 50 pour les Pokémon. Et si jamais ils ont un niveau plus haut, ils sont automatiquement remis au niveau 50.
Est-ce qu'il y a une différence à avoir un Pokémon au niveau 50 ou monter un Pokémon au niveau 100 et après le passer au niveau 50?
Non.
Est-ce qu'il y a un bonus?
Non, aucun. Il n'y a aucun changement. Le seul petit changement, je pense, c'est que ça favorise un petit peu plus le style offensif parce que les stats offensives montent un peu plus vite que les stats défensives. Donc au niveau 50, les stats offensives sont un peu plus hautes.
Puis aussi les EV-IV, ça met du temps à se faire. Donc je pense quand même, ouais. Je sais pas, moi je pensais qu'il y avait quand même un petit avantage de se dire de monter au niveau 100 même si ça sera rétrogradé niveau 50.
Ça change rien, surtout qu'en général les EV et les IV, ça se fait avant lorsque l'on fait l'accouplement et qu'on fait du farming, on appelle ça.
Ouais.
Et les EV, ça se fait dès les plus bas niveaux en fait. En général, déjà au niveau 20, EVIV, le Pokémon est déjà prêt. Après, on le fait monter niveau pour qu'il apprenne certaines attaques et c'est tout.
Est-ce qu'il y a des Pokémon interdits?
Oui, alors justement, en parlant des règles, il y a des Pokémon interdits et deux attaques bannies et deux règles additionnelles. Alors, les règles additionnelles, c'est la species clause. Donc ça, ça veut dire pas deux Pokémon qui ont la même espèce. Et l'item clause, donc la clause objet en français, qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser deux fois le même objet dans son équipe.
D'accord.
Alors les attaques bannies, c'est trou noir. Alors le nom anglais c'est Sky Drop, j'ai oublié le nom français.
Sky Drop, Sky Ciel, Drop tombé, chute...
Ouais, c'est
chute libre.
Voilà, chute libre, parce qu'on peut provoquer un bug en 2v2 qui est vraiment trop fort.
Il fait quoi? Juste comme ça pour...
Je sais plus comment ça fonctionne, mais je sais qu'en quelque sorte, ça fonctionne en deux tours l'attaque. On met le Pokémon en l'air, et quand il est en l'air, il peut pas attaquer. Et après, on le fait retomber au sol, et il se prend les dégâts. Et il y a un bug à faire pour qu'il reste en l'air en permanence, donc le Pokémon devient tout simplement inutile.
C'est quand même balèze, parce que ça voudrait dire que quand même les organisateurs des tournois sont allés voir les bugs du jeu.
C'est un des premiers bugs qui étaient découverts, et donc ils se sont tout de suite rendus compte que... ça devenait injouable. Enfin, on pouvait pas laisser jouer ça. Et trou noir,
et trou noir fléau aussi. C'est un fléau avec. Je sais qu'il y avait que l'Orio dans le dernier VGC qui était juste immonde. Il a pris les attaques de Darkrai et puis c'était.
Mais c'est ça, tout simplement. Il endort tout le monde sur le terrain et c'est assez puissant du coup.
Bah ouais, mais surtout qu'en fait, quand il était joué avec Togeki, ce qu'il faisait par ici, lui, trou noir, automatiquement, on avait beaucoup de problèmes. Mais finalement, normalement, on peut pas avoir deux Pokémon endormis.
Ici, la règle là n'existe pas en VGC.
La sleep clause. Hein.
Ouais, c'est ça, la sleep clause n'est pas appliquée dans les tournois Nintendo. Voilà.
Et les attaques glaciation ont pas comme ceux qui attaquent.
C'est jouable. C'est jouable. Si on a de la chance, pourquoi pas. J'avais demandé à des membres de BIP de choisir un Pokémon qu'ils aimaient bien, et Moligrou, en l'occurrence, a proposé Celebi. Donc je vais parler de Celebi, en 5e génération. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, la 5e génération est la génération des climats, c'est-à-dire qu'en fait, c'est avec, grâce aux capacités du monde des rêves, Tarpo est jouable avec Krachin, et Fenard avec Sécheresse. Ce qui fait qu'une fois que ces deux Pokémon arrivent sur le terrain, le climat est lancé en permanence, et ça permet de développer beaucoup de stratégies, tout simplement parce que Tarpo amenant la pluie, tous les attaques hauts sont boostées, tous les Fatal Food passent à 100% de précision. Ce qui fait que les Team Rain, comme on dit les Team Pluie, donc sont vraiment très bonnes. Très bonnes dans le metagame. Et c'est pour ça que Celebi est un très bon Pokémon en ce moment. Tout simplement du fait parce qu'il a un type plante. Hein, type plante qui lui procure donc une résistance à l'eau très pratique, une résistance à l'électricité aussi. Et d'autres résistances utiles, combat, enfin bref. Ça, il suffit de voir la table des types, vous le verrez. C'est pour ça que Celebi est bon. Alors Celebi a toujours été un excellent Pokémon. Depuis qu'il a été sorti Nord Argent Cristal, il était Uber à ce moment-là, en deuxième génération. En troisième génération, il était le meilleur Pokémon pour beaucoup. Chaque bonne team là, en général. En quatrième génération, il était très bon, et en cinquième aussi. Alors pourquoi? Il y a quelques temps, un peu avant que Black and White sorte, Celebi a reçu l'attaque Machination. Alors, Machination qui permet de booster l'attaque SP directement, de la doubler en un tour.
C'est donc, le temps slam du spécial, quoi.
Voilà. Celebi peut se booster directement et a le Moth Pool, donc le Moth Pool qui veut dire le panel d'attaque nécessaire pour faire mal à beaucoup d'équipes. Donc, il se sert de Giga Sensu qui lui permet en même temps d'attaquer et de regagner de la vie en même temps. Donc il se place au tour 1, il peut attaquer au tour 2, et il regagne sa vie qu'il a pu perdre au tour 1. C'est ça qui est assez pratique.
Et il est monstrueux. C'est vrai que finalement, il crève jamais, quoi.
Alors c'est vraiment, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il peut se placer sur beaucoup de Pokémon qui sont très joués. Si je vais regarder, voilà, j'ai pris les stats avec moi. Donc si on regarde les stats des Pokémon les plus joués, on peut voir que, par exemple, il y a le Pokémon de Motizma Machine à laver, qui est troisième. Alors, Motizma Machine à laver, tout simplement, il sait rien faire à Celebi. Donc Celebi peut venir se placer dessus. Celebi peut se placer sur Noacier, qui est sixième Pokémon le plus joué, sur Tarpo, qui est septième, sur certains Jirachi, qui est neuvième. Donc sur beaucoup de Pokémon, il se place très facilement, il peut ainsi enchaîner les équipes adverses.
Du coup, s'il vient sur le terrain et qu'il y a la pluie, les attaques feu ne lui feront pas grand chose finalement.
En plus de ça, si elles sont pas assez puissantes, voilà. Ça voilà,
donc
pas
un Pyrax finalement il lui fera pas non plus.
Mais Pyrax n'est pas le bon exemple parce que Pyrax a Bourdon qui est là. C'est une attaque insecte, c'est une quadruple faiblesse sur ses Celebi.
Ouais.
Voilà, donc c'était pas un bon exemple, mais on a compris l'idée.
Le feu, un Pokémon feu est rapide. Sera handicapé face à Celebi sous la pluie, quoi, bizarrement.
Alors, aussi très pratique avec Celebi, ce qui fait qu'il a toujours été très fort, c'est qu'il est très versatile. C'est un des Pokémon qui a le plus grand Moth Pool du jeu. Il peut être joué avec plein de rôles. Donc là, j'ai cité déjà le Nasty Plotter, celui qui utilise Machination. Mais il a beaucoup d'autres rôles. Il peut être utilisé aussi comme Pokémon très défensif, parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, Celebi a des très bonnes stats. Il a une base de stats de 100 dans toutes les stats. Donc, ça veut dire qu'il sait avoir 404 PV. Et 328 dans chaque stat. Ce qui fait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui, en fait. C'est ça qui est pratique, on peut très bien jouer l'effet de surprise.
Comme bon voilà, nous semble, il est adaptable. Bah, c'est comme voilà. Mew aussi est à 100 partout, je crois.
Et Mew est encore mieux dans le sens où il peut avoir plus d'attaques. Il peut prendre, grâce au fait qu'il peut avoir toutes les CT, c'est encore plus pratique. Mais c'est les biens un type très avantageux en 5e génération.
D'accord. Bon, bah, Ptirt, je sens que t'as envie de nous parler d'un DVD et d'un nouveau film, si je dis pas de bêtises, comme d'habitude.
Ok, donc... je vais parler du film 15 et des deux films 14. Alors pour commencer le film 15, donc il y a pas mal de choses à dire, comme par exemple l'apparition officielle de Keldeo. Oh tiens, on s'y attendait pas.
Un petit poney.
Oui, le petit Kelpie tout mimi, qui est donc le quatrième mousquetaire, d'Artagnan, un truc comme ça.
Oh là là.
Dis pas de bêtises. Et du coup, il y a aussi les deux formes de Kyuren qui ont été introduites pour la première fois dans l'anime. Il y a Kyuren Black et Kyuren White. Qui en français d'ailleurs s'appelle Kyurem Noir et Kyurem Blanc.
Très original, mais bon...
Bah oui, bien sûr, comme d'hab. Pourquoi chercher compliqué alors qu'on peut faire simple?
C'est ça.
Alors globalement, on comprend un petit peu la trame qui va se passer. Donc c'est Kyurem qui est encore vénère contre le monde. Hein, on sait pas pourquoi, mais à mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé. Et alors, il a décidé, parce qu'il est vénère et parce qu'il contrôle la glace, d'envoyer toute une flopée de Pokémon glace pour anéantir le monde, etc. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le paysage qu'utilise le film 15, ça fait vraiment un espèce de paysage très minier, donc avec des mines, etc., des trains à vapeur, des deltaplanes, non pas des deltaplanes, des zeppelins, voilà. Et finalement, ça fait quelque chose d'assez vieux, un peu comme retourner aux sources avec Pokémon Noir et Blanc. On attend vraiment de voir ce que Kyurem va faire, ce que Keldeo va faire, ce que les mousquetaires vont faire, hein, donc les trois Terrakium, Viridium et Cobaltium. Pour l'instant, la date de sortie n'a toujours pas changé, donc je ne sais plus très bien c'est le quand. C'est toujours Kyurem qui est vénère contre le monde parce qu'on l'a embêté et il va déchirer la gueule de tout le monde. Et alors, il y a les trois mousquetaires qui vont s'opposer à lui avec Keldeo, blablabla. Bla. Et à la fin, ils vont tous devenir amis, ils vont s'échanger leur journal intime, ils vont s'habiller pareil, ils vont porter des bracelets de l'amitié, etc. C'est cliché. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est
you are my very best friend, hein.
Ma sista besta.
Objection. Peut-être que ça va ouvrir sur une nouvelle trilogie.
Encore une trilogie.
Ah ben, attends, la précédente, elle a bien marché. Hein.
La précédente a-t-elle bien marché? Je n'en ai aucune idée parce que le dernier film avec Arceus, j'ai pas tellement accroché.
C'était... Bah au Japon, elle a bien marché. Ou une duologie, tu vois, genre noir, blanc. Donc déjà, il y avait les deux jeux, enfin les deux versions de films là qui vont sortir en France bientôt. Là, ils nous font un truc avec Kyurem et puis puis il reste encore des légendaires derrière.
Ouais, comme Gen 7, qui a une assez bonne histoire, donc c'est un Pokémon encore modifié par l'homme, etc. Donc ça fait un Mewtwo bis, quoi.
Ouais, ça me fait vachement penser à Mewtwo, celui-là.
Bah peut-être qu'on aura un truc semblable, enfin quelque chose de semblable, donc il veut se venger du monde, etc.
Il ne vaudra jamais un Mewtwo, il a trop la classe.
Déjà, il est moche.
Déjà, c'est une copie de Cizayox.
Non, Cizayox est moche à la base.
En fait, c'est Cizayox et Tortank qui sont mélangés.
Ouais, Cizayox et Tortank,
par contre,
ils ont fait un
enfant. Ah là, par contre, je vais pas accepter. Tortank, c'est le meilleur.
Mec, tu vois, quand il fait des bébés avec des œufs du même type que lui dans la Pokéscience, et bah c'est Den Genesex, il fait Tortank et Cizayox. Voilà,
non,
c'est tout.
Non,
mais
non,
c'est
non,
affreux.
Parce que ni Cizayox ni Tortank n'ont une espèce de queue en kangourou. Non, je suis pas d'accord.
Moi non plus, je suis pas d'accord. Tortank, c'est le plus beau.
Il a des doigts. Attends, les doigts de Mewtwo, c'est des boules. Mewtwo, il a des pinces. Enfin, merde. Cizayox, il a des pinces. C'est Tortank. Petite n'importe quoi.
Bah, je suis désolé, hein, mais Genesex, il ressemble quand même. Ah, il a une tête de Métalos quand même. Enfin, il a un petit côté rond.
Il a les fesses de Cizayox.
Ah, il a le bas de l'abdomen, enfin le cul de Cizayox.
Oui, Genesec, mais pas Mewtwo.
On parlait de Genesec.
Autant pour moi.
Voilà.
C'est vrai qu'en même en shiny, il est tout rouge comme Cizayox.
Ouais, c'est bizarre. Hein, peut-être un manque d'inspiration pour ce Pokémon.
Ouais, du coup ils prennent le meilleur pour en faire un autre.
Il est bizarre son canot. On dirait les vaisseaux dans Star Fox.
On dirait, je sais pas. Moi, ce Pokémon, je le trouvais étrange. Hein. En même temps, il est.
De toute façon, c'est un légendaire, on le voit pas beaucoup. Voilà.
Non, c'est vraiment le Mew de Unis, quoi. Enfin, si je peux dire. Le Mewtwo Mew d'Unis.
C'est vraiment honteux de comparer Mewtwo et Mew à quelque chose d'aussi moche, mais bon.
Ouais, je pense que là, le...
C'est une honte de compter Tortank là-dedans, surtout.
Mais c'est à cause de son canon, là.
Ouais, c'est son canon de Tortank et son côté de Cizayox. Pierre, t'as peut-être trop de choses à dire sur le film et le film 14. Black and White, Kyurem, voilà.
Ouais, bah le film 15, on a toujours aucune information là-dessus, on a juste le premier trailer, donc qui parle surtout de l'attaque des Pokémon glace, etc. Kyurem noir et Kyurem blanc, mais sinon c'est vraiment, je peux pas dire plus. Alors du coup, je vais parler du film 14 qui va sortir le 6 juin dans nos contrées. Donc pour rappel, le film 14, il est divisé en deux films. D'un côté, c'est Pokémon blanc avec Zekrom comme star, et de l'autre, Pokémon noir avec Reshiram comme star. Normalement, les différence, c'est uniquement au niveau des Pokémon, donc les Pokémon, par exemple, dans le film blanc, ce sont uniquement les Pokémon que vous pouvez voir dans Blanche. Exemple, avec Guerriaigle, qui est uniquement dans Pokémon blanc, et ben on le verra uniquement dans le film blanc. Votutrice, je crois que ça s'appelle, Votutrice qu'on ne peut voir que dans Pokémon noir, on ne verra Votutrice que dans le film noir.
Ouais, Votutrice est plus moche que Guerriaigle, voilà.
Mais Guerriaigle, il a la classe.
Ouais.
Ensuite, il y a peut-être 2-3 choses qui ont encore changé, comme par exemple la caméra qui fait un effet miroir, suivant qu'on regarde l'un ou l'autre. Donc Sacha qui va à gauche dans l'un et Sacha qui va à gauche dans l'autre.
À droite.
Oula.
À droite, à droite.
Ça sent les économies d'échelle, ça.
Ouais, bon. Mais de toute façon, les deux films se ressemblent à 80%. Voilà, en fait, on regarde l'un ou l'autre uniquement pour voir Sacha avec le dragon qu'on adore. Mais sinon, c'est le même film, quoi. C'est la même fin.
Ils sont chanchés pour rien, en fait.
Piège à con et va chaler.
Deux fois plus de fric.
Mais je me demande s'ils vont pas vendre les DVD ensemble, en fait.
Moi, je crois qu'ils vont faire un pack.
C'est prévu, ouais, qu'il y a un coffret.
Je pense qu'ils vont vendre ensemble et pas séparer. Je sais pas s'ils vont faire séparer, ça m'étonnerait.
Ce serait un peu dégueulasse quand même de devoir acheter deux DVD alors qu'il y a que un quart d'heure du film qui est différent, quoi.
Mais je crois que le pack, il sera deux fois plus cher. Genre, si le DVD, il est à la base à 10€, le pack sera à 20€.
Ça m'étonnerait même pas. Hein.
Et au cinéma, ils ont fait comment pour projeter les deux films?
Ah, c'est deux films différents, donc deux salles différentes. Il fallait acheter deux tickets, je crois. Ou un seul, mais en tout cas, c'était deux salles différentes.
Ah ouais, putain, ils ont vraiment trouvé le tiroir caisse, là. C'est marrant
que tu dises ça, Timothée, parce que ta phrase, elle résume une part commerciale de Pokémon, quoi. C'est-à-dire que c'est deux cartouches identiques avec 10% de différence.
C'est ça. Mais finalement, ça touche aux jeux vidéo, c'est pas très grave, parce que mine de rien, il y a une certaine complémentarité et une bonne replay value. Et pour un film, par contre, je trouve ça un petit peu limite qu'ils ont eu l'idée de se dire bon, on va faire deux films différents, mais un quart d'heure de 45 minutes similaires et un quart d'heure différent.
Et ils risquent pas de faire la même chose avec le nouveau film.
Ah bah forcément.
Puisque apparemment Kyurem va prendre les pouvoirs de Reshiram et de Zekrom.
Je pense que c'est un seul et même film. crois qu'ils vont pas recommencer.
Je sais pas si Kyurem il prend la force de Zekrom dans un des films, ils vont pas. Enfin, je sais pas, ça va être bizarre. À moins qu'il ait les deux dans le film et qu'il jongle entre les deux.
Non, ah. Parce que sur le poster, enfin, déjà il y a qu'un poster pour le film, et sur le poster il y a les trois formes de Kyurem, donc la forme normale et les deux, et donc Kyurem noir et Kyurem blanc. Donc ça m'étonnerait qu'ils fassent deux films.
Puis en même temps, pour eux, ça leur coûte aussi pas mal d'argent à faire deux films, donc finalement, ça a peut-être pas si bien marché le dernier.
Ça dépend un petit peu.
Il me semble qu'il est resté quand même quelques temps au box-office. Hein.
Ah ouais, oui. Il faudrait retrouver les stats, je sais pas. Si quelqu'un sait trouver les stats du box-office japonais, voilà, bah on le mettra dans la description, tu les donneras à notre cher Walker et il mettra le chiffre exact des films justement au box-office japonais.
C'est vrai que ça peut être intéressant.
Voilà, histoire de comparer déjà lequel des deux films a mieux marché et voir combien de semaines il est resté.
Oh, lequel des deux films a le plus marché, ça je peux le dire direct. C'est le noir, celui avec Zekrom. En fait, c'est un truc, mais vraiment de marketing. Enfin, j'ai l'impression que Nintendo a préféré mettre en avant Zekrom plutôt que Reshiram. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'est un rapport avec la chanteuse qui chante les génériques de fin. Parce
c'est
qu'en fait.
Possible, elle aime les Pokémon électriques et dragons.
Non, ça c'est Chocotan, ça n'a absolument
c'est
rien
à voir. C'est la présentatrice.
Ouais, c'est la présentation.
Non, en fait,
bah,
c'est
pareil
que...
pour moi, c'est une japonaise, ils se ressemblent tous.
Non, c'est parce qu'en fait, elle chante une chanson dans le film de Zekrom qui est vraiment la présentation, enfin, c'est son tube. L'autre, j'ai envie de dire que c'est une chanson que pour Pokémon, mais celle de Zekrom, c'est vraiment une chanson qu'elle va mettre au box-office, qui va participer à l'Oricon, etc., pour aller dans le hit des 100 meilleures chansons de l'année, etc. L'autre, j'ai vraiment l'impression que la chanson, elle a été faite uniquement pour Pokémon.
D'accord, donc effectivement, ouais, ça pourrait être un petit coup de la part de Nintendo. Un petit coup. Ça pourrait être... je sais pas, après, c'est laquelle des deux versions qui s'est plus vendue, c'est tout simplement.
Je vais juste faire une petite correction.
C'est pas la blanche, justement, celle avec Zekrom aussi.
Oui, voilà. Bah,
c'est possible.
Victini est le héros noir Zekrom.
Si jamais, je vais juste faire une petite correction. T'as dit que c'était pas le film version noir avec Zekrom, mais c'est bien le version blanc.
La version blanc avec Zekrom et noir avec Ish.
Non, ça dépend si on parle version noir.
Non, les films, c'est bien version noir avec
blanc,
Reshiram.
Victini et Zekrom. T'es content?
Exact.
D'émettre une petite hypothèse, comme quoi peut-être que les films, un jour, reviendront en France au cinéma, comme ils l'ont fait en Amérique.
Ce serait bien, ce serait bien. Dernier film, c'était le 3. Voilà, petite pensée triste.
C'est pour ça que je pensais que ça terminait en 3, les films. On ne sait pas qu'il y avait des suites.
Eh si, et quand tu as appris qu'il y avait des suites, il y avait déjà le film numéro 8 qui sortait. Bon bah voilà, je pense que Walker peut nous faire le tirage au sort pour le prochain... Enfin...
Pour le deuxième jeu. Super Pokémon
Rumble. On sait pas pourquoi super. En tout cas, c'est un jeu 3DS. Le mois dernier, c'était un Pierre qui a gagné, si je ne dis pas de bêtises. Donc, coucou à toi. Et Walker, je te laisse accueillir le professeur Shen pour le tirage au sort.
Professeur huissier Maître Shen.
Bonjour.
Bonjour, Maître Professeur. Donc, on va faire le tirage au sort pour le deuxième gagnant. Du jeu 3DS
Pokémon Rumble.
Pokémon Rumble, voilà.
Bien entendu.
Donc, chapeau avec toutes les participations. Donc, je vous demande juste une seconde. En réalité, je me connecte à la base de données. Alors, je vais essayer le tirage au sort. Donc là, il y a eu un peu moins de participants. Hein, on tourne autour des 300.
Donc, une chance sur 300 de gagner.
Alors, le gagnant est Sabrina, qui habite dans les 64. Alors, j'ai fait juste une vérification pour voir s'il n'y a pas eu de double participation.
Attention, il faut pas tricher. Une participation par adresse IP.
Ok, donc Sabrina de Anglais, dans le 64, vient de remporter le jeu.
Eh ben, félicitations.
Bravo.
Good game.
Bravo, on applaudit. Bravo. Bravo à Sabrina. Voilà. On lui enverra son jeu dans les prochains jours, courant mars, début avril. Voilà, il faut pas être pressé, mais le jeu sera envoyé, ne t'en fais pas, il est là, il est devant nous. On t'enverra ça, et l'heure de se quitter. Bon, déjà, l'émission est plus longue que la dernière, effectivement. Vous allez nous en faire part et nous dire « Ah, c'était un petit peu long cette fois-ci », mais il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire entre le tournoi VCG, Pokémon Park, Poké Park Wii 2, la Poké Science, Pokémon...
Stratégie, les cartes, les films...
Les cartes, les films, Pokémon Blanc et Noir version 2, et tout ça, la nouvelle section sur Pokébib. Donc voilà, on a fait une émission un peu plus grosse que la dernière, et voilà. Et un son meilleur, effectivement, on est sur un bon serveur Mumble, donc ça marche nickel. Et puis voilà, donc effectivement, l'émission s'adaptera également à l'actualité sur Pokémon. Bon voilà, les émissions en durée peuvent varier. Comme ça, c'est dit qu'il est temps de se quitter. Je vous laisse dire au revoir aux auditeurs, chers chroniqueurs.
Salut tout le monde!
À la prochaine.
Au revoir à tous.
À plus.
Bye.
Et voilà. Donc Pokémon Radio Show épisode 3, c'est fini. N'oubliez pas de rejoindre la page Facebook. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires sur la page la Facebook et de Pokébib. On se retrouve le mois prochain. Salut à tous.